Qu'est-ce qui arrive? Tout le monde est par terre aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème de tarboura? Il y avait la mille temps. Alors écoutez, vous allez prendre le début de la parachute. Ah, comment? Le début de la parachute Balak. Bien, écoutez, nous avons. Je vous donnerai des explications sur le sujet de la paracha pendant l'étude de texte que nous allons avoir tout à l'heure. Parce que je crains qu'il y ait d'autres participants qui arrivent et qu'on risque d'être dérangés pour le début, je ne voudrais pas avoir à répéter. Alors, tu veux ouvrir la main? Vous arrivez à m'entendre? Je sens que ça se coince. Bien, dans tous les cas, je pense que le récit historique qui est en question dans cette paracha vous est suffisamment connu, je me borne à le rappeler très très brièvement. Vous avez besoin de Bemidbar et de Devarim. Rappelez-moi, Bemidbar et Devarim. Il s'agit de la tentative faite par Moab, qui, comme vous le savez, est un des peuples qui ont été rivaux d'Israël, surtout dans cette période de la sortie d'Égypte. Je vous rappelle que Moab, comme Ammon, sont deux peuples qui sont issus de Lot, qui est un des parents d'Abraham, c'est une des lignes de la famille d'Abraham, et il y a eu une rivalité qui a duré extrêmement longtemps, qui d'ailleurs en fait n'est pas encore complètement résorbée, mais je ne voulais pas prendre trop de temps pour vous diagnostiquer le profil d'identité propre à Ammon et Moab de notre temps. Simplement, je vous rappelle qu'on est familier à la rivalité de deux lignées de la famille d'Abraham qui se sont instaurées comme concurrents, disons, d'Israël, de deux manières différentes. C'est Ishmaël d'un côté et Esav de l'autre, mais il y en a d'autres, et en particulier les descendants de la branche de cette famille d'Abraham qui a fondé, après la séparation de Lot, qui a fondé les deux peuples de Moab et Ammon, qui se sont installés, grosso modo, en schématisant, dans la région qui est de l'autre côté du Jourdain, un peu la Jordanie actuelle. Vous savez d'ailleurs que la capitale de la Jordanie actuelle s'appelle en hébreu Rabat Ammon. Et Rabat Ammon, c'est-à-dire la capitale de Ammon. Les Arabes en ont fait Amman, mais originellement c'est Rabat Ammon. Je pense que vous savez cela. Bien. Et alors donc, au moment de la sortie d'Égypte, il y a eu une confrontation entre Israël qui sort d'Égypte et toutes ces lignées de la famille d'Abraham qui étaient installées, la principale étant Esav, la lignée de Edom.
J'oublie, je m'excuse.
Oh, c'est pas maintenant. Tu m'as fait penser à autre chose. Il ne faut jamais faire des choses pareilles quand on est en train d'étudier. Alors qu'est-ce que je disais justement? Donc Israël, sortant d'Égypte, se heurte à la rivalité de toutes ces lignées de la famille d'Abraham qui, comme je disais, autour de Edom, qui était la principale rivalité à Israël, puisque Edom était le frère jumeau de Jacob à l'origine. Edom, c'est le peuple d'Ésaü. C'est bien clair, tout ça pour tout le monde. Okay? Et alors il y a un refus de toutes ces peuplades. Enfin, à l'époque, c'était des peuplades, mais ça a été des civilisations entières, des traditions entières, d'identité entière. Enfin, deux d'entre elles sont devenues ce qu'elles sont devenues, Ishmaël d'un côté et Esav de l'autre, mais quoi qu'il en soit, il y a un refus de laisser passer Israël à travers les portions de territoire du pays de Canaan qui étaient occupées par ces peuples pour traverser le Jourdain et rentrer dans le pays propre à Israël pour ce temps-là. Enfin, chaque mot a un sens, mais retenez les implications de vocabulaire de façon très exacte. Et En particulier, la Torah nous raconte une tentative dont je voudrais dire un peu, en fait, comme en introduction, le caractère, disons, très paradoxal, c'est peut-être pas le mot exact, pour la mentalité moderne. Une tentative de lutte contre Israël à travers un procédé, une stratégie, disons, qui pourrait nous paraître de l'ordre de la conscience magique par rapport à la culture contemporaine. Le roi de Moab, qui était à l'époque Balak, il était d'une dynastie d'un autre peuple. Il avait usurpé la royauté de Moab. C'est pourquoi le verset nous dit que Balak était le roi de Moab en ce temps-là. Balak ben Sippor, Melech le Moab, Ba'etai. À la fin du verset 4. Je vous signale cela en passant, chaque détail du texte est important, comme vous le savez. Et le commentaire explique qu'en ce temps-là, il était le roi de Moab, parce que ce n'était pas le roi légitime de Moab. Mais quoi qu'il en soit, je ne vais pas ouvrir trop de parenthèses, il fait appel à un personnage qui est important dans le récit de la Torah, qui est Bilam. En français, on l'appelle Balaam, je ne sais pas comment ils ont traduit ça comme ça en français, d'où ça vient. En hébreu, c'est Bilam. Et Bilam est connu comme étant le prophète des nations. Donc, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire un prophète des nations. Je commencerai peut-être les remarques d'introduction par cette question-là. On est habitué à l'idée que la prophétie concerne Israël, surtout dans le récit de la prophétie biblique. Alors, parler d'un prophète qui n'est pas d'Israël dans le récit de la prophétie biblique, ça peut paraître paradoxal. Donc, j'essaierai d'éclairer cela, mais quoi qu'il en soit, ce roi de Moab, Balak, donc, fait appel à Bilam pour une tentative qui, effectivement, pourrait paraître paradoxale pour notre mentalité culturelle, pour maudire Israël. On prend acte, on n'arrive pas à vaincre Israël par la force, alors on va essayer par une autre stratégie. Alors, je voudrais très rapidement parler de ces deux points-là en introduction. Je ne voudrais pas que l'introduction soit trop grande. On n'écrit pas sur le livre. Oh, Habibi, on prend pas une Torah comme pupitre. C'est interdit. Prends un cahier, si tu veux. Et alors, on change de chaise. La première notion, c'est prophète des nations. Il y a une autre expression aussi qui peut paraître paradoxale. Vous avez l'expression prophète de mensonge. Et ça paraît encore beaucoup plus frappant. Il y a une sorte de contradiction dans les termes entre prophète et de mensonge. Neviye, sheker. Neviye ou monta olam, c'est un deuxième problème qu'on va voir tout à l'heure. Alors il faut savoir que la névoie, c'est une capacité humaine à l'échelle universelle qui a été perdue avec le temps. Elle est restée en Israël un certain temps supplémentaire et ensuite elle a été perdue partout. Voilà, il faut se rappeler de cela. Je ne voudrais pas trop analyser ce sujet, il faudrait des heures. Mais je voudrais que vous me disiez si c'est suffisamment clair. On a oublié que la prophétie a existé parce qu'on a oublié qu'elle s'était arrêtée. Je répète, ce n'est pas un paradoxe. Le fait qu'on a oublié cela, que la prophétie s'est arrêtée à un certain moment de l'histoire humaine, fait qu'on a oublié qu'elle existait vraiment. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? Pour les modernes ne comprennent pas ce que ça veut dire la prophétie. Il y a, si vous voulez, un consensus de vocabulaire que ça voudrait dire que c'est la parole de Dieu communiquée à certains hommes qui sont des prophètes. Mais ça ne veut pas dire qu'on comprend qu'est-ce que ça veut dire que Dieu parle et comment il parle et de quoi il s'agit. Et ceci dit, et ça c'est un prophète en herbe. Non, c'est moi qui parle. Je reprends ce point-là. Pour les modernes, prophétie, c'est synonyme d'autre chose. Les penseurs, même juifs, d'ailleurs certains penseurs juifs, sont très gênés d'admettre cette notion de la prophétie dans son sens réel, que c'est la révélation de la parole de Dieu du dehors de la conscience humaine. Et ils ramènent cela à quelque chose de tout à fait autre, mais qui ressemble à ce qui s'appellerait l'inspiration. C'est-à-dire, on n'arrive pas à avoir le courage d'admettre qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, alors on fait semblant que ça veut dire autre chose. Et Dieu s'adressa à Moïse pour dire que, oui, Dieu s'adressa à Ézéchiel, Jérémie, Isaïe. Et alors, est-ce que vous découvrez au moins le problème ? Alors on pense à la prophétie quel que soit d'ailleurs l'accord d'orthologie, comme on dit en français, une orthodoxie du langage, on n'en pense pas moins. Les mots sont exacts, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, mais en réalité, on pense à quelque chose de l'ordre de l'inspiration. Il y aurait l'inspiration poétique, il y aurait l'inspiration artistique en général, si vous voulez, et puis il y aurait l'inspiration prophétique. Mais que finalement, il ne s'agirait pas d'autre chose. Et comme, en particulier, le style des prophètes est un style prophétique très grand en tant que style prophétique, alors ça handicape. Ça fait prendre la prophétie pour la poésie pieuse, alors que ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Enfin, le point central, c'est cela. Nous vivons dans la modernité par rapport au temps de la Bible. Mais une modernité qui, pour nous, dure depuis déjà des millénaires. Qu'est-ce qu'il va falloir avoir? Et une modernité qui dure depuis extrêmement longtemps. Et en particulier, il y a une date qu'il faut retenir pour ce problème, c'est la destruction du temple. À partir de la destruction du premier temple, la révélation prophétique s'est arrêtée. Alors, et ça fait 2600 ans. Et alors, lorsque les modernes, à partir de ce temps-là, réfléchissent à un phénomène que la Bible nomme la prophétie, Nevoa en hébreu, mais je veux surtout rappeler le verset qui revient comme un refrain, comme si la Torah avait prévu qu'il fallait qu'elle enfonce ce clou là d'une certaine manière, et Dieu parla à Moïse en disant, et Dieu parla à Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, ces grands hommes de l'humanité, je vous dirai pourquoi je les cite intentionnellement, eh bien on fait semblant qu'il s'agit d'une expérience que les modernes, auxquelles les modernes sont familiers, une expérience d'inspiration. On dit de quelqu'un qui sait parler, qu'il a de l'inspiration. De quelqu'un qui sait écrire, qu'il a de l'inspiration, etc. Mais il est bien évident qu'il s'agit de tout à fait autre chose si on prend au sérieux ce que dit le texte. Est-ce que c'est bien clair? Et pourquoi on a cet obstacle, cette difficulté de prendre au sérieux ce que dit le texte? C'est qu'on est démuni de tout moyen d'en avoir expérience. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Et je veux dire, la première fois que je me suis rendu compte de cela, des pièges du langage, c'était quand j'étais au lycée, donc il y a assez longtemps. Et j'avais lu un vers d'une pièce de Musset. Musset était un poète français que j'aimais beaucoup à l'époque, d'ailleurs c'est un grand poète. Et donc, dans une des pièces de Musset, j'oublie comment elle s'appelle d'ailleurs depuis le temps, je crois que c'est Une des nuits, mais je ne sais pas laquelle. Et il a ce vers, et je ne vous dirai que ce que Dieu m'a dit. Un très beau vers. C'est même un vers de 12 pieds, enfin un alexandrin. Et je ne vous dirai que ce que Dieu m'a dit. Mais tout le monde sait que Dieu n'a jamais parlé à Musset. Et même pas Musset ne le croyait. Musset était de bonne santé, bien que poète. Eh bien, c'est pas toujours le cas, mais enfin, Musset, semble-t-il, plutôt. Bon, je pense que c'est clair. C'est une façon de parler, très belle d'ailleurs. C'est une façon de parler. Dieu n'a jamais parlé à Musset. Et alors, dans le texte de la Bible, ces phrases-là, Vaidaber Hashem El Moshe Lemor, mais surtout il y a une phrase que le Midrash met en évidence, c'est la prophétie à Ézéchiel. Vaihi Debar Hashem Elai Lemor. Et la parole de Dieu fut à moi en ces termes, ou en disant. Alors, deux choses l'une. Il y a une façon de parler. Et alors, tout le texte serait une espèce de pieux mensonge, ou bien c'est sérieux. Et quand on se rend compte l'impact que ce livre a eu dans l'humanité, d'autant plus que d'autre part, par rapport à l'histoire d'Israël, c'est le seul livre qui rend compte de l'histoire d'Israël, alors il faut se méfier. Alors, tout ceci, c'est pour comprendre pourquoi il est important de comprendre que les modernes ne comprennent pas ce que c'est que la prophétie. Il y a une adhésion, enfin, comme je dis souvent, sauf ceux qui comprennent, ça existe quand même, mais c'est rare, et c'est incommunicable. Une sorte d'adhésion, de consensus par la foi, qu'effectivement ceux qui savent disent que c'est Dieu qui a parlé à Moïse, à Ézéchiel, à... mais nous on ne comprend pas, enfin nous les modernes. C'est clair ce que je dis, okay? Je crois que l'événement qu'il faut avoir en mémoire, c'est celui-là. La prophétie s'est arrêtée, et alors qu'on a oublié qu'elle s'est arrêtée, on a oublié qu'elle a existé. Est-ce que le raisonnement vous est suffisamment clair, okay? Et d'ailleurs le texte de la Bible lui-même nous prévient que la prophétie va s'arrêter. C'est un verset dans Malachi, qui est le dernier des prophètes, et qui annonce que le prophète Élie, à la fin des temps, renouvellera l'expérience de la prophétie. Et vous voyez à quel point il faut être vigilant lorsqu'on aborde ces problèmes. Tout ceci, je vous l'ai cité, et vraiment, je ne voulais pas que l'introduction soit trop longue. Seulement, comme il m'arrive souvent, je perçois que c'était un sujet qui vous était difficile et qu'il fallait l'expliquer un peu plus. Alors, essayez de me dire quand même si c'est suffisamment clair. Surtout, ne réagissez pas. Ceci pour éclairer l'expression prophète de mensonge. Non. Prophète vraiment, mais de mensonge vraiment. Prophète des nations. Et j'espère que vous vous présentez déjà que la première expression, prophète de mensonge, est plus difficile à comprendre pour un moderne que la seconde. Parce que si c'est un phénomène qui s'attache à la nature humaine de façon normale, il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas eu des prophètes chez les nations au temps où il y avait la prophétie. Mais l'expression plus difficile à comprendre, c'est prophète de mensonge. Est-ce que c'est clair, si vous voulez ? Bien. Alors, je vais vous donner trois indications que donne Judas Lévi dans le Kuzari. D'abord, lorsque Judas Lévi nous explique la hiérarchie des niveaux d'être dans l'existence, alors il y a 5 niveaux d'être. Je vous l'ai dit très rapidement, ce n'est pas le sujet. Pour ceux qui ont déjà étudié ça, vous recorderez, d'ailleurs je vais le dire en hébreu. Il y a d'abord le domem. C'est ce qu'on pourrait appeler en français l'être inerte. Mais vous remarquerez tout de suite en hébreu que tous les termes qui vont être employés pour dire ces 5 niveaux d'être sont des termes qui concernent la faculté de parole. Or, en hébreu, domem, qu'on traduit par inerte, en hébreu, ça veut dire le silencieux. Ça veut dire qui devrait pouvoir parler, mais qui ne parle pas. C'est l'être inerte, le minéral, si vous voulez. Alors, les poètes vous diront qu'ils entendent la voix des rochers. Et ça, c'est de la poésie. Mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas possible au temps de la prophétie. Si vous lisez attentivement les textes qui concernent le roi Salomon, le roi Salomon savait écouter toutes les voix qu'il y a dans la nature, même les voix du domaine, du silencieux. C'est clair, c'est du dingue. Hein? Et ensuite, il y a le chai, vivant, le vivant. Le vivant au niveau biologique. La vie au niveau biologique, c'est chai. Bon. Le vivant, vraiment, c'est un autre niveau, mais c'est dans un autre terme. Et puis, alors, donc, on pourrait dire les animaux. Tout ce qui est... Non, c'est j'en ai oublié, c'est d'abord le tzomer, le végétal. Il y a d'abord le domaine, ensuite le tzomer, le végétal. Et ça, c'est moins perceptible, mais c'est quand même une des manières de dire qu'il y a déjà un murmure à ce niveau-là, et c'est pas le vent dans les roseaux, comme on disait, c'est le végétal lui-même qui murmure. Vous avez... L'expression hébreu siah, le buisson qui se dit suah. Et siah, c'est la conversation, le murmure de la conversation, c'est la même racine. Et ensuite il y a le chai, le biologique. Alors le chai, c'est crier. Suivant les espèces, c'est aboyer, hurler, tout ce que vous voudrez. Mais il y a déjà le bruit qui apparaît, dévoilé. Et puis plus haut, au quatrième niveau, c'est le chai amdaber, le vivant parlant. Et ça, c'est l'homme. Alors, plus haut. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, oui. Plus haut que le vivant parlant, le chai amdaber, il y a...
Moi, j'ai un problème d'oreille qui m'empêche de me
sentir. J'ai rien dit. Non, je suis resté quand même. Et il y a plus haut le Chai Amdaber, le vivant parlant qui est l'homme, mais le vivant parlant en vérité. Et ça, c'est le Navi. Vous voyez, ça veut dire, de chacun des niveaux de l'être procède un niveau supérieur jusque à l'homme, et de l'homme procède le Navi. Ça veut dire en réalité, l'objectif de la création à tous les niveaux d'être, c'est le vivant parlant en vérité, qui s'appelle en hébreu le Navi. La racine, d'où vient le mot Navi, ça veut dire parler vraiment. Je ne veux pas dire orateur, parce que vous allez croire que n'importe quel orateur peut être prophète. C'est-à-dire le prophète est aussi orateur dans le sens banal du mot orateur. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et vous avez une expression d'un des versets d'Isaïe qui vous montre que c'est la même racine, le Navi. C'est celui qui sait parler en vérité, qui sait parler vraiment, je dirais plutôt, c'est Borenir Sefataim. C'est un verset. Je vous ai dit où c'est. Est-ce que je vous ai dit où est ce verset ? Non. C'est un verset dans Isaïe. Il me semblait vous avoir dit un autre prophète. C'est Borenir Sefataim, Shalom, Shalom, Amar Hashem, Larachou et Lakarov, Amar Hashem. C'est-à-dire celui qui crée le murmure des lèvres, la formulation des lèvres, Niv Sfataim. Vous avez un mot qui se rattache à cette racine, c'est la Tevoa. La Tevoa, c'est la récolte. D'ailleurs, la moisson qui procède de la terre. Et la Nevoa, c'est la parole qui procède du vivant. Et vous voyez, c'est un exemple important qui enseigne que la catégorisation en hébreu est différente dans une langue comme le français. Et alors voilà, au premier niveau, il y a une capacité de la nature humaine authentique, disons, depuis l'origine, qui est que l'homme, dans sa nature, est capable de prophétie. Et alors l'homme qui n'est pas prophète, c'est un homme qui a perdu cette capacité, qui ne l'a pas parce qu'il n'en est pas capable, donc il l'a perdu. De la même manière que l'animal est un être vivant qui ne parle pas. Mais la preuve qu'il devrait pouvoir parler, c'est pas tellement qu'il a une bouche, c'est qu'il peut crier, donc il pourrait parler. D'ailleurs, les oiseaux savent plus que crier, ils chantent. Je me souviens que le Rav Kook Zichrono Livracha nous enseignait à propos de l'ânesse de Bilam, puisqu'on a parlé de Bilam, que tout le monde se demande que c'est ça, une ânesse qui parle. Il a dit, le véritable problème, c'est pas un animal qui parle, c'est les animaux qui parlent pas. Je sais pas si c'est clair. Vous voyez à quel point la familiarité masque la position des problèmes. Effectivement, le texte est très clair. De façon exceptionnelle, et c'était un miracle, dans le sens fondamental du mot miracle, Dieu a ouvert la bouche de l'ânesse de Bilam et elle a parlé. C'est pas n'importe quoi qui a parlé. C'est pas, je peux vraiment dire, c'est pas un roseau qui a parlé. C'est quand même un mammifère, disons. Eh bien, il y a toute une histoire des degrés et donc des étapes de l'arrêt de la prophétie. Il y a une étape importante avant celle que vous avez indiquée, qui est la fin. C'est la génération de la sortie d'Égypte, au moment de la révélation du Sinaï, où Israël a reçu la Torah, la prophétie s'est arrêtée chez les nations. Et ce qui en est résulté, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'arrêt de la prophétie, dont je n'ai pas dit encore, l'arrêt de la prophétie n'a jamais été à chaque niveau un arrêt brusque. Il y a un phénomène, en français on appelle ça un phénomène de rémanence. Il y a quelque chose qui continue un peu en s'atténuant et jusqu'à disparaître ou devenir autre chose. Il y a un temps de transition, disons. Eh bien, ce qui chez les nations, depuis la sortie d'Égypte, a succédé au temps de la prophétie chez les nations aussi, puis c'est un phénomène à l'échelle universelle, eh bien, ça a été les oracles. Et les oracles qui ont donné existence à des mythes. Alors toutes les mythologies datent de ce temps-là, lorsque la capacité de prophétie chez les nations elles-mêmes s'est transformée en quelque chose d'inférieur. Et il y a eu des traditions qui ont gardé une connaissance plus vivace de leurs propres mythes anciens, surtout en Orient, en Extrême-Orient, chez les Africains. Et alors qu'en Occident, ça s'est rapidement devenu hermétique, et c'est pourquoi à la fin de l'arrêt de la prophétie, il y a en Occident la pensée philosophique, alors qu'en Orient, il y a la mystique. Ce sont des dégagements de ce même événement, différentes natures. Mais quoi qu'il en soit, vous devinez que tout ce que je dis, c'est extrêmement schématique. Et puis finalement, la date importante pour ce problème, c'est la destruction du temps. Alors, j'ajoute deux indications du Kuzari, de Judas Lévi. Le phénomène de la prophétie est définitivement arrêté, pour deux raisons. D'abord la dispersion d'Israël, et la dispersion d'Israël a brisé l'unité de la nation d'Israël, et deuxièmement le fait que la prophétie d'Israël ne concerne et donc n'est possible qu'en Eretz Israël. Et donc là, le fait qu'Israël soit détruit comme nation et vive en dehors de sa terre a mis fin à la prophétie. Alors si vous relisez l'histoire de la culture universelle, de toutes les traditions, vous verrez ces points de repère qui sont indéniables pour son effet d'histoire. Je vous donne un exemple de ce que j'ai cité en passant tout à l'heure. La pensée philosophique apparaît en Grèce au temps où la prophétie s'arrête en Israël. Et avant la pensée philosophique, il y a le temps des sages, qui étaient les mythologues de la Grèce. Lorsque les Grecs eux-mêmes n'ont déjà plus compris leur mythe, alors est née la pensée de méthode philosophique. On a étudié ça chez Socrate, qui est la charnière, mais surtout, Platon est encore du temps mythologique, mais c'est à partir d'Aristote, c'est fini. Les Grecs ne comprennent plus leur mythe et commencent à réfléchir philosophiquement, c'est-à-dire de manière secondarisée, sur les contenus de pensée qui étaient leur pensée antérieure devenue hermétique. Ce n'est que les modernes, très récemment, très tardivement, qui ont redécouvert que dans les mythes, même dans les mythes des nations, il y avait une sagesse impure, mais une sagesse quand même. J'ai envie de donner un exemple qui est très familier à la culture contemporaine. Après le temps des grandes thèmes de théâtre, j'ai oublié comment dire en français, les grands dramaturges grecs qui ont fourni les thèmes du théâtre occidental, que ce soit la tragédie ou le drame, ce sont des thèmes qui frappent la conscience de la culture universelle, au point que les amateurs de théâtre ne se lassent jamais d'aller assister à la même pièce plusieurs dizaines de fois dans leur vie. Comme d'ailleurs les amateurs de musique écoutent la même symphonie des centaines de fois et peuvent apprécier les différences de style des différents exécutants, tant pour la musique que pour le théâtre. Ce sont donc des thèmes qui frappent la conscience humaine, l'âme humaine, disons. Or, ce sont des thèmes de la mythologie. Vous prenez tout le théâtre classique, vous verrez que ce sont des thèmes de la mythologie grecque. Est-ce que c'est clair, ce que je veux dire ? Donc, là, c'est une remarque qui nous montre à quel point il y a une certaine sagesse perdue qui frappe l'inconscient, ou même la conscience parfois, de l'homme moderne qui ne sait plus d'où ça vient, ces thèmes-là. Et puis surtout les structuralistes, les ethnologues structuralistes, en particulier, ont redécouvert des quantités de sociétés qui se répétaient leurs mythes anciens, en les comprenant ou sans les comprendre. Et puis certains philosophes modernes, contemporains d'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que Lévi-Strauss est encore vivant ? Bon, s'il est vivant, il est vivant. J'ai suivi pendant 2 ans l'enseignement de Lévi-Strauss. C'est un de ceux qui ont remis ça en évidence, que derrière le mythe se cache une sagesse. Et que il a fallu attendre le temps contemporain, donc des centaines et des centaines d'années, des siècles et des siècles après le temps de l'arrêt de cette révélation prophétique, pour arriver à se rendre compte que derrière les mythes, et ça je parle des prophètes des nations, de ce qui est resté chez les prophètes des nations, il y avait une sagesse. Il y avait une formule d'un grand philosophe contemporain qui, lui, je crois, est mort, c'est Paul Ricoeur. Est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est mort? Il se passe des choses à l'étranger, mais on n'est pas au courant. Alors Paul Ricoeur qui disait: le mythe donne à penser. Mais je reviens surtout à Lévi-Strauss, parce que ça me permet de vous donner la source de cette redécouverte de la sagesse qui se cache derrière les mythes. C'est l'œuvre de Freud, qui a mis en évidence, par la méthode de l'analyse, en partant des rêves, qui a mis en évidence cela. Regardez, aujourd'hui, c'est entré dans le domaine public, le thème de l'Œdipe. Or, c'était un mythe qui était absolument incompréhensible, mais qui frappait l'imagination, et on s'aperçoit qu'il y a une sagesse qui se cache derrière. Vous savez ce que c'est que le thème de l'Œdipe, je n'ai pas besoin de vous rappeler ça. Tout ce que je voudrais vous dire, puisque je l'ai cité, c'est que c'est un thème de l'âme grecque. Ça ne marche pas pour l'âme hébraïque. Ça n'existe pas. Sachez qu'une famille juive où ça joue, c'est le signe que c'est une famille assimilée. Ne cherchez pas à diagnostiquer chez vos cousins, chez vos voisins, si ça se passe comme ça autrement. Je veux dire, quel est le thème de l'Œdipe ? C'est un fils qui tue son père. Et alors que le thème correspondant dans la tradition de la Torah est tout à fait l'inverse. C'est ce que les goyim appellent le sacrifice d'Isaac, mais c'est un père qui ne tue pas son fils. Je ne sais pas si vous voyez à quel point ça n'a rien à voir. C'est-à-dire l'expérience de la rivalité dans le sens inverse. Pour la tradition juive, c'est-à-dire là je vous cite un enseignement du Talmud, « En Adam Mekane, lo et bno et lo et palmido. » Un homme n'est jamais jaloux de son fils. Alors que pour la sagesse grecque, c'est l'inverse, c'est le fils qui est jaloux de son père. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Alors comparer, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était par un psychiatre originaire de Strasbourg et qui habite à Jérusalem, il s'appelle Yehuda Choupak. Vous avez entendu parler de Choupak? Choupak, docteur Choupak. Eh bien, c'est la première fois qu'il a fait ce rapprochement et c'est extrêmement fécond. Et vous voyez, les deux thèmes sont exactement un l'inverse de l'autre. Et la dernière fois que je lui ai rappelé, il avait oublié que c'était lui qui l'avait dit la première fois. Je l'avais entendu déjà à Strasbourg il y a... Bref, en tout cas, pour revenir au sujet, vous voyez, il y a eu, chez les nations, des prophètes. Et puis, la prophétie s'est arrêtée aussi chez les nations. D'abord chez les nations, ce qui a succédé, c'est les mythes, etc. Ensuite, la pensée philosophique a agi contre les mythes. Ça, en Occident. Eh bien, par conséquent, il ne faut pas s'étonner à ce qui est cette notion des prophètes des nations. Ça y est, c'est clair ? J'espère que la première notion, je ne me suis pas trop apesanti, vous est aussi claire. Prophète de mention, il peut y avoir une capacité prophétique et elle peut être utilisée pour le mensonge. C'est, cela vient parce que c'est pas évident que quelqu'un qui est capable de la capacité prophétique soit aussi moral. Cela vient du problème moral. Il y a d'autre part le fait que tout homme, prophète ou pas, est moral ou pas. Alors il y a une constante dans la prophétie hébraïque, relisez la Bible, vous en apercevrez, pour le prophète de la Bible, la morale et la prophétie, ça va ensemble, c'est la même chose, ça s'identifie. Alors chez les nations, c'est séparé. D'ailleurs, j'ai un peu parlé de ça, non, j'ai un peu indiqué ça dans le texte de Richard qui vous avez dans la page de la semaine, vous verrez ça après. C'est une grande différence, c'est qui est, comment dire, sans exception. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas arriver qu'un prophète des nations soit aussi moral. Mais ce n'est pas parce qu'il est prophète qu'il est moral. Sa prophétie ne concerne jamais la morale. Et je vais vous donner un... C'est l'oracle. C'est autre chose. Les prophètes des nations prophétisent sur la destinée. Et pas un peu ce que les hindous appellent, enfin les orientaux appellent le karma. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Hein. Alors les prophètes d'Israël prophétisent sur la conscience morale. C'est une différence de nature. Je voulais ajouter une autre indication, mais je pense que c'est suffisamment clair. C'est d'autant plus visible dans le conflit que nous avons avec le christianisme. Les grands théologiens chrétiens, sans exception, séparent la morale de la religion. On n'est pas sauvé par la vertu morale. C'est le contraire du christianisme pour eux. Alors ça ne veut pas dire qu'on est sauvé par la foi, par la grâce, par tout ce que vous voulez, mais on n'est pas sauvé par la vertu morale. Ça, c'est judaïsé qui disent. Et j'ai consulté énormément de grandes autorités, pas seulement des Français, et il y a unanimité chez les grands théologiens chrétiens. L'hérésie judaïsante, c'est de croire qu'on est sauvé par la vertu. D'ailleurs, le grand conflit qu'il y a entre les protestants et les catholiques se raccroche là. D'ailleurs, c'est un conflit. C'est un problème que vous avez dû étudier dans vos études au lycée. Vous vous rappelez de la querelle entre Pascal et Port-Royal, ça vous dit quelque chose ? Alors, branchez ça là-dessus. Et il faut dire d'ailleurs que dans cette querelle, le génie était du côté de Pascal, mais c'est les jésuites qui avaient raison. Et c'est un autre problème. En tout cas, pour revenir au sujet, il ne faut pas s'étonner de ce qu'il y ait un prophète des nations. Et alors, ce prophète des nations, Bilam, lui, c'est un cas particulier. Chaque nation avait ses prophètes, capables de parler du sens prophétique de l'histoire de leur peuple. Mais Bilam, c'est le prophète des nations en général. Dans les temps contemporains, j'ai cherché une analogie pour essayer de donner une image de cela. Je crois que c'est un phénomène extrêmement important que je voudrais mettre en évidence. À chaque fin d'exil d'Israël, apparaît une instance politique universelle, ou en tout cas de prétention universelle. par exemple, à la fin de l'exil d'Égypte, à la sortie d'Égypte, c'est la dynastie des pharaons qui était l'instance politique de prétention universelle. C'était un empire, mais c'est ça l'empire, c'est la prétention à l'universel. Eh bien, et à la fin du deuxième exil, c'était l'empire perse, c'était Cyrus qui était l'autorité de prétention politique universelle. Et vous remarquez qu'il a fallu, dans le cas du pharaon et dans le cas de Cyrus, attendre le OK, le feu vert de l'autorité politique universelle du temps ou de prétention universelle pour que la sortie d'exil soit possible. Donc le pharaon n'a pas donné le feu vert, donc Cyrus n'a pas donné le feu vert, on ne pouvait pas. Et de notre temps, il y a un phénomène très analogue qui s'est produit. Le sionisme a été reconnu comme légitime par la Société des Nations. Or, la Société des Nations, c'est la première fois après 2000 ans qu'une instance internationale de prétention de souveraineté politique universelle apparaît. Comme si, en termes bibliques, si vous voulez, la Société des Nations n'a existé que pour enregistrer la déclaration de Balfour. D'ailleurs, on se demande qu'est-ce qu'elle a fait d'autre. Ce qui restera dans l'histoire, c'est que les échecs de la SDN et une seule réussite, la déclaration de Balfour. Et puis, pour dire ceci, c'est qu'au moment où, à ces moments exceptionnels de la fin de l'exil pour Israël, apparaît une instance universelle de l'ordre de la prophétie. Alors c'était Bilam autant la sortie d'Égypte. Et quel est son objectif? D'empêcher la sortie d'Égypte. Et c'est malgré lui qu'il va bénir au lieu de maudire. Là, je vais aborder la deuxième question. Qu'est-ce que c'est cette stratégie de lutte à travers la malédiction? Vous vous rappelez que je vous avais annoncé ça au début du cours, hein, pour les autres, si vous avez l'air de raccrocher un peu. Or, la seule analogie que j'ai trouvée, ça va vous faire sourire, mais je crois que c'est de plus en plus ça, c'est le secrétaire général de l'ONU, et qui est le porte-parole de l'universel, de la souveraineté de politique de prétention universelle. Alors, chaque fois, on se heurte à ce problème. J'aborde très rapidement le deuxième point. De quoi s'agit-il dans cette stratégie de la malédiction? Et je vais vous demander de préparer un texte dans Devarim, sur ce que je vais demander de le prendre, au chapitre 23. Et vous prendrez à partir du verset 4. Chapitre 23. J'arrive tout de suite. Alors, je vais aborder cela. Ça y est, faites ça rapidement, qu'on n'a pas de temps. Chapitre 23, verset 4. Dans Devarim. Alors, j'arrive. J'arrive donc à ce sujet par une petite introduction linguistique. Qu'est-ce que ça veut dire en français malédiction? On est habitué au sens de souhaiter le mal à quelqu'un. Et c'est là que, pour la conscience moderne, il y a une réticence devant la signification apparemment magique de cette conduite. Est-ce que parce qu'on a maudit quelqu'un, est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça va entraîner du mal? Alors si c'est vrai dans cet exemple, est-ce que la magie c'est vrai? La conscience moderne rejette ça. Alors, donc, je vais dépasser cette première étymologie, souhaiter le mal à quelqu'un, pour arriver à l'étymologie beaucoup plus stricte, c'est dire le mal de. Alors, dans la culture contemporaine, dire le mal de, c'est une stratégie qui est très efficace depuis qu'on a découvert les stratégies de la propagande. Voilà, ça suffit. Et je crois que la première fois on s'est rendu compte de cela, c'était avec la propagande nazie contre les juifs. Le résultat de la propagande nazie contre les juifs a été une catastrophe dans l'histoire juive, des juifs de diaspora. J'ai connu énormément de cas de goyim, de bonne foi, qui ont été trompés de bonne foi, d'abord par la propagande de l'Église, dans l'antisémitisme chrétien, et ensuite surtout par la propagande nazie qui avait réussi à démoniser les juifs, à dire le mal d'eux, à souhaiter le mal d'eux, à faire venir le mal d'eux, et le mal est arrivé. Voilà, il suffit de passer par cette notion de propagande pour se rendre compte de quoi il s'agit dans cette stratégie. D'ailleurs, ça joue aussi contre Israël, après avoir joué contre les Juifs. C'est pour ça que j'ai fait allusion en épinglant le secrétaire général de l'ONU, ça a toujours passé par l'ONU. Je ne sais pas si vous avez remarqué que la répétition des condamnations systématiques d'Israël, comme si c'était Israël qui était chaque fois l'agresseur alors qu'il était la victime, a fini par faire que Israël était, bon, bref, le juif des nations, comme disaient les journalistes. Voilà, vous rassemblez tous ces éléments ensemble et ça vous donnera un peu la perspective de cette stratégie de Bilam. Et alors, je crois que ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est l'étymologie du mot de bénir ou de maudire. Bénir, c'est dire le bien de, donc deuxièmement, souhaiter le bien à, et maudire, c'est dire le mal de, souhaiter. Et alors, la propagande avait finalement réussi à transformer le bien en mal. Vous savez d'ailleurs, cette attitude de la mauvaise foi qu'il y a dans la propagande, c'est une névrose qui se nourrit de n'importe quelle indication ou indice, et chaque argument qui pourrait être mis en avant pour contrecarrer la propagande est intégré, est utilisé par la propagande. C'est clair. Alors, il faut bien se méfier. Vous comprenez pourquoi les rabbins ont toujours enseigné que le plus grand mal, le plus grand yetzerara, c'est la calomnie. C'est-à-dire dire le mal d'eux, c'est le plus grand mal. Je ne vais pas perdre trop de temps, mais je voudrais mettre en évidence la différence qu'il y a entre la médisance et la calomnie. Et le terme hébreu, il y a différents termes en hébreu d'ailleurs. Quelle est la différence entre médisance et calomnie? Vous me corrigerez si le français m'échappe. Calomnier, c'est dire de manière fausse de quelqu'un un mal qu'il n'a pas fait. Ça, c'est calomnie. Mais la médisance, c'est de dire de quelqu'un un mal qu'il a fait. Dire le mal de. Et c'est la médisance qui est interdite. Il y a, je me souviens d'un enseignement d'un de mes maîtres, qui était Jacob Gourmet, c'est comme le Bracha, qui avait cité un midrash sur ce sujet, dans le mot de Malchinut, qui veut dire la médisance, il y a le mot de Lachon et le mot de Mavet. Écrivez Malchinut, alors il y a Lachon et Mavet, la langue qui tue. Alors le Talmud dit que la médisance tue trois personnes. Celui dont on parle, celui qui parle et celui à qui il parle. Et effectivement, voilà, c'est tout ce phénomène-là, c'est tout cette opération. Et je crois qu'il suffit d'étudier l'histoire juive, surtout l'histoire juive contemporaine, pour se rendre compte à quel point c'est efficace. C'est-à-dire cette stratégie de Balak, de mandat à Bilam, de maudire Israël, ne croyez pas que c'était rien. Ça aurait pu réussir, et en fin de compte, ça a réussi d'une certaine manière. On va étudier un texte là-dessus. Alors vous allez prendre d'abord le texte de Devarim, très rapidement, à partir du verset 4. Voilà, là nous avons une disposition de la Torah qui interdit aux descendants de Moab et aux descendants de Ammon, voyant le retrouve,